Bonjour à tous et à toutes. Au micro, Paul Uzi Meyerson, qui a le plaisir de vous présenter une nouvelle émission de notre magazine Chronique pour la paix. Chers auditeurs, c'est la rentrée. Nous regardons vers nos travaux à venir et envisageons déjà les fêtes de Tichri. De plus, se pointent à l'horizon les élections législatives en Israël, événement toujours important pour les citoyens de ce pays et pour le peuple juif en général. Mais cette fois, les élections du 17 septembre paraissent plus graves qu'à l'ordinaire, bien que nous ayons déjà connu plusieurs scrutins s'étant déroulés dans des contextes dramatiques. Alors pourquoi cette impression de gravité aujourd'hui ? Peut-être parce qu'il s'agit d'une réplique électorale, car la dernière consultation s'est terminée par une impasse gouvernementale. Peut-être aussi parce que l'on s'aperçoit que le système politique de Benjamin Netanyahou atteint ses limites. Peut-être enfin parce qu'à Gaza, en Cisjordanie et sur la frontière nord du pays, les périls demeurent. Nous allons demander à Denis Charbit de répondre à nos interrogations sur les enjeux des prochaines élections à la Knesset. Denis Charbit est maître de conférences en sciences politiques à l'Université ouverte de Tel Aviv. Il a écrit de nombreux ouvrages, dont le dernier en date, Israël et ses paradoxes, et publié aux éditions Le Cavalier Bleu. Denis Charbit, vous m'entendez à Tel Aviv ?
Oui, très bien.
Bon, bonjour Denis Charbit. Alors, tout de suite, heureux de vous accueillir une nouvelle fois sur notre antenne. Dites-nous, vous qui suivez depuis de nombreuses années la politique israélienne, est-ce que ces élections ressemblent aux autres ? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers plus lourds qu'à l'habitude ? Franchement, est-ce non, que nous sommes à un tournant de la vie du pays et de ses institutions ?
Alors, je ne dirais pas que ces élections présentent un caractère différent des derniers scrutins. Nous sommes devant une vie politique qui est marquée depuis 10 ans par la victoire de Benjamin Netanyahou à différents scrutins. Et donc, de ce point de vue-là, on retrouve à peu près les mêmes, d'autant que, comme vous l'avez signalé dans votre introduction, ces élections ont lieu moins de 4 mois après les premières. Et donc, de ce point de vue-là, il faut reconnaître qu'en dépit de ce que vous avez mentionné, les problèmes à Gaza, en Cisjordanie ou à la frontière nord, les problèmes n'ont pas changé. Il n'y a pas eu un événement dramatique qui a bouleversé et qui fait que ce scrutin aurait une singularité particulière. Non, il y a eu un blocage, il y a eu un échec de la part de Netanyahou, et plutôt que de voir le processus se dérouler en confiant au chef de l'opposition, c'est-à-dire Benny Gantz, le soin d'essayer à son tour de former, avec succès ou non, un nouveau gouvernement, Netanyahou a décidé, d'une manière qui était assez, on va dire, inédite dans la vie parlementaire d'Israël, de procéder à de nouvelles élections, alors même qu'elles avaient eu lieu la même année, c'était au mois d'avril, et donc là, cette fois-ci, au début du mois de septembre. Donc, rien n'a changé. Les listes, d'ailleurs, sont à peu près les mêmes. La seule modification qui est significative et qui peut avoir des conséquences politiques, je dirais même considérables, c'est que là où, en général, on était habitué à avoir dans l'addition, dans les sondages, un bloc de gauche ou de centre-gauche plus exactement, y compris les partis arabes, et un bloc de droite dirigé par Netanyahou, donc faisant l'addition de toutes les forces le soutenant pour être le candidat à former un nouveau gouvernement. Voilà que les choses se sont clarifiées beaucoup plus qu'elles ne l'avaient été en avril 2019 et même en 2015, c'est-à-dire que le parti de Lieberman, qu'on considérait comme un allié naturel de Netanyahou, a compris d'une certaine manière que sans lui, peut-être Netanyahou ne peut pas former un nouveau gouvernement, ça a été le cas au mois de juin dernier, et donc je dirais que voilà, la seule chose qui a vraiment changé,
c'est Lieberman.
C'est que cette addition automatique, voilà, cette addition automatique de Lieberman au camp de la droite dirigée par Netanyahou ne va plus de soi, puisqu'il a déclaré, mais il peut revenir sur sa décision, il a déclaré qu'il est en faveur d'un gouvernement d'union nationale, alors à la tête de quel sera ou Netanyahou ou Benny Gantz, sans les partis orthodoxes, et ceci effectivement peut effectivement entraîner, si ça se confirme, un bouleversement de la vie politique. Là, pour le coup, vous avez raison de parler d'un presque quelque chose de dramatique, puisque on aurait un autre gouvernement que ceux qu'on a depuis en gros 2009.
D'accord. Donc la nouveauté, c'est comment dirais-je la nouvelle orientation de Lieberman. Mais est-ce que vous pensez que ça peut amener, si ça se passe comme ça, à une alliance sérieuse qui peut tenir la route pour former un gouvernement et puis construire une politique avec Gantz et le Parti blanc-bleu? Est-ce qu'ils sont comment
c'est
dirais-je
le Parti blanc-bleu? Oui.
Est-ce qu'ils peuvent s'entendre? Est-ce qu'ils peuvent s'entendre?
Écoutez, moi, je suis convaincu qu'ils peuvent s'entendre, au moins pour une raison très simple, c'est que le Parti bleu-blanc ne se caractérise absolument pas par des propos qui sont très différents de ceux du Likoud. Sur la manière de résoudre le problème à Gaza, je dirais même qu'il se remontre parfois plus belliqueux que ne l'est lui-même Netanyahou. Sur un retour à la négociation, il se montre extrêmement prudent, il n'en parle pas très clairement. Il faut bien comprendre que le parti, même si le parti a été plébiscité par pas mal d'électeurs qui sont beaucoup plus, à gauche que le parti lui-même. Non, moi je ne vois pas sur le plan idéologique de très très grande différence. C'est pas un parti de gauche, c'est pas le Meretz, c'est même pas le parti travailliste. Donc en ce sens, si les travaillistes en 2013 ont pu siéger dans un gouvernement avec Netanyahou, je vois pas qu'est-ce qui empêcherait le parti bleu-blanc de siéger avec Netanyahou. Alors si ce n'est que il y a ses affaires judiciaires, son dossier judiciaire, et que là aussi ça peut entraîner des problèmes, et il n'est pas sûr que Netanyahou y soit favorable. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, tout est ouvert, et c'est là d'ailleurs la raison pour laquelle Netanyahou milite s'active dans la campagne pour que, à l'issue du scrutin, les deux partis orthodoxes religieux, le parti de droite Yémina et le Likoud, totalisent plus de 61. S'ils totalisent plus de 61 députés, on retourne à une coalition sortante, certes qui sera difficile à gouverner, mais ça s'est déjà présenté dans la vie politique israélienne. Et à ce moment-là, effectivement, Lieberman n'aura plus cette liberté de manœuvre qui sera réelle et effective si, effectivement, l'addition de ses forces à droite totalise un score inférieur à 60 députés.
D'accord. Alors, il me semble, là, vous allez nous dire, Denis Charbil, qu'il y a également une petite nouveauté en Israël. Il y a le chef de la liste arabe unie, Ayman Odeh, qui a un peu rompu avec les positions classiques des partis arabes israéliens, qui ne souhaitent jamais s'allier avec les formations sionistes. Alors, il s'est dit prêt à soutenir le centre-gauche, mais en posant des conditions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe de ce côté-là ou c'est simplement une manœuvre tactique?
Non, je pense que à gauche, je dirais, tout le monde comprend que cette muraille de Chine qui sépare les partis de gauche et du centre sioniste et les partis arabes, finalement, font la victoire du camp de la droite. Voilà. Donc, tout le monde comprend objectivement et logiquement qu'à un moment, cette muraille de Chine idéologique est un obstacle pour que un jour, le centre-gauche puisse reprendre les mains au pouvoir, puisque au sein de la population juive, il y a une très claire majorité à droite. Alors, le problème, c'est qu'il y a des obstacles idéologiques de taille, et c'est vrai que Ayman Odeh a lancé, je dirais, un premier appel assez audacieux, même audacieux pour son propre parti, puisqu'il appelle à siéger au gouvernement. Alors, il pose des conditions qui sont toutes, tout à fait acceptables par n'importe quel candidat de la gauche et du centre-gauche, sauf peut-être celui de la fin de l'occupation. On ne peut pas rentrer dans un gouvernement et décréter la fin de l'occupation. Il faut qu'il y ait d'abord une action gouvernementale, et peut-être que le but sera la fin de l'occupation, mais il n'y a pas eu de conditions idéologiques. Ils n'ont pas dit... En fait, ils ont adopté, enfin, Ayman Oudé, plus exactement, a adopté la logique des partis orthodoxes. Les partis orthodoxes ne sont pas des partis sionistes. La liste unifiée n'est certainement pas un parti sioniste, et pour autant, elle n'exige pas du candidat Benny Gantz d'accepter la ligne idéologique de la liste unifiée arabe. Voilà. En même temps, voilà, je disais tout à l'heure, voilà encore une des marques supplémentaires où le parti bleu-blanc n'est absolument pas un parti de gauche. Ils ont rejeté ça, je dirais, assez vertement, assez clairement, en fermant complètement la porte à une hypothèse de ce genre. Alors, peut-être qu'après les élections, ils parleront autrement. Mais en tout cas, là, officiellement, de Lapid à Gantz, en passant par Ayalon et Ashkenazi, tous ont condamné, ont dit non, les conditions ne sont absolument pas recevables pour siéger ensemble au gouvernement.
Voilà. Une dernière question de Nishar Bitt, parce qu'il nous reste une minute, là. Hein. Est-ce qu'on va aborder franchement la question de la Cisjordanie et de Gaza? Est-ce qu'on annexe ou pas? Est-ce qu'on élimine le Hamas ou pas? Je crois qu'en Israël, il y a un grand mécontentement contre Netanyahou dans le Sud, dans toutes les yeshuvim du Sud, toutes les villes du Sud.
Oui, mais dans la mesure, c'est vrai, parce que ça dure depuis trop longtemps, mais tout le monde comprend bien que ici, c'est pas la logique de conviction qui doit l'emporter, mais la logique de la responsabilité. Alors, il y a effectivement un écart entre ce que Netanyahou aurait voulu faire et ce qu'il fait de fait, et au détriment, effectivement, de la population, mais il n'y a pas un débat entre deux alternatives bien différentes, c'est la guerre tout de suite ou la guerre plus tard. Voilà, en gros, le débat israélien sur la question qu'on ne se fasse, enfin, sauf le Meretz, enfin, le camp démocratique, qui a peut-être une autre vision des choses. Mais enfin, ce n'est pas un parti qui est appelé à devenir un parti de gouvernement, mais éventuellement une force d'appoint dans un gouvernement de centre-gauche. Mais à l'intérieur, enfin, je veux dire, entre les deux grands partis, Likoud et Bleu-Blanc, il n'y a pas de très grande différence. Et au contraire, je dirais que toute la propagande ou toute la campagne de Bleu-Blanc, c'est d'essayer d'atténuer les différences entre le Likoud et en gros, c'est de dire on est le Likoud sans Netanyahou. Voilà. Et sans, on va dire, peut-être l'idolâtrie des implantations qui caractérise peut-être aujourd'hui le Likoud.
D'accord. Alors, l'émission se termine. Denis Charbit, c'est très, très aimable d'avoir répondu à nos questions et j'espère qu'on aura encore l'occasion de vous entendre. Chers auditeurs, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve pour un autre rendez-vous dans 15 jours. Ça sera juste avant les élections, donc on en reparlera. Voilà, c'était Paul Ouzimé, Herson à l'antenne, avec Chronique pour la paix.